Je voulais vous parler non pas de la foi, mais de votre foi, de ma foi, pas FOIE, hein, la foi. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça m'importe peu de faire des études théologiques sur la foi en général. Ah, je vous surprends peut-être. Parce que ce qui m'importe, moi, c'est de connaître mon niveau de foi, où j'en suis par rapport à ce que Dieu est et ce que Dieu dit. Alors, vous allez peut-être sourire, je vais vous poser une question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. Aussi, allez répondre si vous avez envie. Qui d'entre vous pense que j'ai grossi pendant les vacances? Bien sûr, c'est bien. J'aurais bien parié un billet sur toi, sur ta tête. Donc, tu penses que j'ai grossi pendant les vacances. Qui pense que je n'ai pas bougé de poids? Ouais. Et qui pense que j'ai maigri pendant les vacances? Ok, d'accord. Bon, je ne vous dirai pas la réalité. Est-ce que vous avez remarqué que, en fonction de ce que je pense, imaginer, de ce que je vois, certains me diront, il a grossi. J'ai le nom de celui qui a dit ça. Ensuite, il y a des gens qui disent, bon, il n'a pas bougé, c'est toujours le même. C'est Julio Iglesias, je n'ai pas changé. Et puis d'autres diront, il a un peu maigri quand même. Ben, en réalité, j'ai un peu grossi. J'ai pris 1,5 kg, ce qui n'est pas énorme. Mais j'aurais pu tricher même pour éviter que des barbus viennent me dire que j'ai grossi. J'aurais pu me mettre une ceinture abdominale et faire en sorte que j'avais un ventre hyper plat. Mais qu'est-ce qui va prouver que ma foi ou que mon poids, par exemple, que mon poids a augmenté ou baissé? C'est quel acte? Aidez-moi. Je vais monter sur la balance, ce que j'ai fait hier matin. J'ai fait comme ça, regardez. Je suis monté, puis j'ai vu le poids. Ah! J'ai eu peur. Non, je plaisante, j'ai pas fait ça. Autrement dit, vous pouvez, si je fais une analogie à ma foi, vous pouvez vous dire, sa foi est grande, je pense qu'elle est grande, je pense qu'elle est petite, je pense qu'elle est moyenne, je pense qu'elle fait partie, il fait partie de la moyenne des chrétiens. Mais comment vais-je mesurer ma foi? C'est une question, ça, n'est-ce pas? Enfin, je vous rassure, je trouve que vous avez tous minci pendant les vacances. Voilà. Quel faillot! Alors, comment on va définir notre foi? Parce que la foi, ça va pouvoir, elle va pouvoir être bâtie sur des images. Comme là, il est écrit, je vais mettre mes lunettes, c'est l'âge. Ah non, mais là, si, je vois bien. La foi, c'est comme le Wi-Fi. C'est invisible, mais elle a le pouvoir de te connecter à ce dont tu as besoin. Ça peut être ça, la foi. La foi, c'est monter la première marche alors que vous ne voyez pas du tout l'escalier. C'est Martin Luther King qui a dit ça. Ça pourrait être une définition de la foi, n'est-ce pas? Ensuite, affrontez vos peurs, ayez la foi et comptez sur Dieu pour réussir. Tiens, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu, je compte sur Dieu pour réussir, je compte sur Dieu pour avancer. Tant de personnes ont peur, alors diverses peurs, etc. Et puis, la foi, la seule semence qui pousse sur le terrain de l'impossible. J'aime bien ça. Pourquoi ça? Ah oui, tu grossis, c'est bien. Oh là là, il pense à mes vieux yeux, c'est pour ça. Et puis, la dernière définition, c'est la foi, c'est avoir une lumière avec son cœur pendant que les yeux ne voient que l'obscurité. C'est intéressant aussi, ça. Vas-y, tu peux revenir. Mais que signifie la vraie foi en Dieu? C'est une grande question. Les théologiens se sont torturés l'esprit sur le sujet. Je les ai laissés faire. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir une foi vivante. Une foi où, comment dire, une foi vraie, une foi solide. Et ma seule raison d'être ici aujourd'hui, parmi vous, c'est de connaître mon niveau de foi. Pas de connaître votre niveau de foi. Bien que je pourrais vous donner votre note. Mais ce qui est important, c'est d'avoir mon niveau de foi. Où j'en suis, moi? Parce que souvent, on regarde les autres. Avez-vous remarqué? On se dit, tiens, lui, il manque de foi. Ou lui, il est comme ci, ou lui, il est comme ça. Mais nous, et moi, où en est ma foi? Et donc, je vous invite ce matin à monter sur la balance. Alors, ne faites pas comme moi, parce que des fois, quand on monte sur la balance, on a un petit peu peur. Je vous invite à monter sur la balance et à affronter ce que vous devez faire. Hier, quand je me suis aperçu que j'avais grossi un petit peu, j'ai dit à Maryse, plus de pain, plus de fromage et plus de pinard. Autrement dit, quand je me mets à mesurer mon niveau de foi, je vais engager, si je vois que ça manque, je vais commencer à engager des actes concrets dans ma vie. Le but, c'est ça. Ce n'est pas juste d'avoir une notion intellectuelle de ma foi, mais c'est de savoir que dois-je faire pour aller et grandir dans la foi. Et pour ça, on va prendre quelques mots tirés du Hébreux 11. Tout le monde connaît, enfin tous les chrétiens, normalement, vous le connaissez par cœur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, la vraie foi, je parle, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Or, un peu plus loin, il est écrit, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. » Vous savez, souvent, on lit 1 Corinthiens 13, « Or, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc on se dit, il faut que j'ai l'amour. Mais en réalité, Paul ne dit jamais ça. Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Si vous voulez avoir une idée de ce qu'est l'espérance, mon espérance ne se situe pas en fonction des circonstances, si on la voit. Ma foi ne dépend pas des circonstances, ma foi dépend de ce que Dieu dit. Et d'une personne qui est Jésus-Christ. Si je m'en tiens aux événements dans ma vie, ma foi aurait été détruite à plusieurs reprises et je n'aurais pas pu continuer à vivre ma vie chrétienne. La seule personne, le seul moyen que j'ai eu de tenir dans la foi, c'est de m'accrocher au Christ, de m'accrocher à la personne de Jésus-Christ. Parce que si vous attendez que les circonstances soient favorables pour croire, votre foi est faible. Première pesée. Et pourquoi je vous dis ça? Sans accusation, parce que je l'ai fait. Parce que j'ai été un homme comme ça. Et je me suis rendu compte que lorsque les choses allaient, ma foi était grande. Et lorsque les choses n'allaient pas, ma foi était petite, voire elle disparaissait. Je remettais tout en question, même quant à la souveraineté de Dieu. Tu as envie de te peser aujourd'hui sur la balance de la foi. Pèse et dis-toi où en est ta foi quand ça ne va pas. Et tu auras une réponse. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous savez que Dieu aime les hommes et les femmes de foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Mais les démons croient aussi et ils tremblent. Et regardez, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, ce matin Jean-François, pendant tu ne savais pas que j'avais parlé de ça, il a fait référence dans sa prière de Noé, qui a tenu malgré les circonstances. Il a été divinement averti par Dieu et il a mis des choses concrètes en place dans sa vie pour aller jusqu'au bout, jusqu'au déluge. Il est allé contre vents et marées, si je puis dire. L'arche, là, vraiment. Et il a, en plus, il a résisté aux moqueries. Il a résisté au fait que, bah, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est complètement insensé. Tu es en train de construire un bateau sur un endroit où il n'y a pas d'eau. Noé. Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice, qui s'obtient par quoi? Par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, lors de son appel, obéit, partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il est allé. Abraham, c'est l'homme qui a commencé à monter la marche sans voir le bout de l'escalier. Et souvent, mes frères, mes sœurs, entre nous, on veut connaître ce qui est en haut de l'escalier avant de monter la première marche. C'est pas vrai? Mais la foi, ce n'est pas connaître ce qui va arriver au bout. La foi, c'est dire Dieu m'a parlé et je mets le pied sur la marche et j'y vais. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. La foi ne nous écarte pas de la mort et des épreuves. Sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Je reviendrai là-dessus. C'est pour ça que j'ai mis en gras. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment. Tiens, des hommes et des femmes qui avaient la foi ont été tourmentés. Et ils n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet. Tiens, des hommes et des femmes qui ont été battus. Les chaînes et la prison, ils furent lapidés, sciés. Des hommes et des femmes qui furent sciés parce qu'ils avaient la foi. Torturés, ils moururent tués par l'épée. Et il n'y en a plus un qui va vouloir avoir la foi, là. Ils vont tous partir. Vous avez le droit de partir, hein. C'est libre ici. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage. N'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous. Là, on va s'arrêter après aussi là-dessus. Afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Hébreux 12, début 12, parce que souvent on s'arrête à la fin du chapitre 11, malheureusement. Nous donc aussi, puisque nous voyons ces hommes et ces femmes remplis de foi, de persévérance dans la foi, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau. Et s'il y a des fardeaux sur ton cœur ce matin, s'il y a des choses difficiles que tu as vécues, ta seule responsabilité, si tu veux continuer à avoir la foi, c'est de jeter ce fardeau. Rejette. C'est quelque chose, même en grec ici, qui est très violent, hein. C'est comme ça. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance, on va le voir aussi, dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dira, ayez les regards sur Jésus. Pas sur un homme, pas sur une église, pas sur une dénomination, pas sur Jésus. Si tu veux garder la foi, et ce, quelles que soient les circonstances, aie le regard fixé sur Jésus, qui est l'auteur de ta foi, qui est ton Dieu sauveur, le Dieu qui t'a libéré, lavé de tous tes péchés, qui t'a ramené dans la relation avec le Père. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis aujourd'hui à la droite de Dieu. Parce que moi, quand je regarde Jésus, Allez écouter l'émission RCF enregistrée. Et je vous invite d'ailleurs à aller à l'expo sur l'Apocalypse à La Treille. Ça se termine fin du mois, je crois. 25, je crois. C'est ça. Je le dis. Moi, quand je lis l'Apocalypse, il m'importe peu de connaître les événements et la compréhension des événements. Je vous le dis. Je lis l'Apocalypse pourtant. Ça fait partie d'un des livres que j'aime, même si je ne comprends pas tout. Mais j'ai compris quelque chose en préparant cette émission de radio. La télé sera pour plus tard, quand je serai plus connu. Quand j'ai préparé cette émission, on m'a demandé deux passages. J'ai pris le premier chapitre et le dernier chapitre. J'ai pris ces deux passages parce qu'ils résument tout. Ce que le Jésus sur qui je veux avoir les regards, c'est pas le Jésus de la croix. C'est le roi qui est ressuscité. Ses cheveux sont comme de la neige blanche. Ses yeux sont perçants. De sa bouche sort une épée à double tranchant. Ses pieds sont comme de l'airain ardent partout où il passe. Il provoque le respect. Il est le roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Et c'est ce Jésus-là sur qui je fixe les regards. Celui qui règne au siècle des siècles. Et souvent, dans les circonstances négatives que nous vivons, malheureusement, nous ne regardons que le Jésus qui a été amené à la croix. Ce qui est bien, parce que c'est par la croix que je suis pardonné. Mais s'il vous plaît, regardez qui il est aujourd'hui. Il est bien plus grand, il est bien plus merveilleux, son nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Bon, je vais arrêter. Je m'exalte. La foi est une assurance, une démonstration. Et une assurance. L'assurance, c'est la confiance liée à une promesse formelle. Dieu, quand il dit des choses, il établit des lois. Il édite des choses. Il dicte des choses qui sont des choses qui sont immuables et indestructible. Autrement dit, l'assurance, c'est ma confiance liée à une promesse. Pas une promesse que je crois moi, mais une promesse qui se cache derrière le roi. Vous comprenez ça? Qui est dite par le roi. Or, la foi et la démonstration, c'est une action de montrer par des expériences les principes d'une science ou d'une loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je vais l'appliquer dans ma vie, ça? Moi, ça m'importe. Parce que quand j'ai une définition, c'est bien beau d'avoir une définition, comment je l'applique? Ça veut dire que quand je dis que c'est une assurance, ça veut dire que dans ce que Dieu a promis, pas dans ce que je souhaite, pas dans ce que j'aimerais, mais dans ce que Dieu a dit, cette assurance se confirmera par des paroles dans mes prières et dans mes déclarations. Tu as envie de te peser aujourd'hui? De peser ta foi, pèse ce que tu dis et ce que tu déclares. Et surtout, pèse-le quand ça ne va pas. On est tous d'accord que quand ça va, on a tous la foi à transporter les montagnes, n'est-ce pas? Mais pèse tes paroles, examine-les lorsque ça ne va pas. Et quand je dis qu'elle est suivie d'une démonstration. Vous savez, ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas uniquement des paroles qu'il dit, mais c'est des gens qui disent des paroles, pardon, mais ceux qui font ce qu'ils disent. Et là aussi, je vous donne un exemple. Allez, je fais une pub pour les petits groupes. Le Seigneur parle en 2016. On revient avec un projet de petits groupes. On met en place des petits groupes. Au mois d'avril, on participe à un séminaire prophétique en visio avec un prophète. Le prophète vient mettre la cerise sur le gâteau, si je puis dire. Il vient confirmer l'appel de cette église concernant les petits groupes. Il dit clairement, je veux qu'à Betsalel, autour de cette église ici, il y ait des églises qui naissent à partir des maisons qu'il y a tout autour. On est d'accord ? Vous avez tous entendu, ou si vous ne l'avez pas entendu, je pourrais vous la communiquer. Donc, comment je détermine ma foi par rapport à ce que Dieu dit là ? La première, c'est que je vais le déclarer dans mes prières. Seigneur, je proclame que je veux entrer dans cette vision des petits groupes, que je veux établir des églises dans les petits groupes. D'accord ? Je vais le prier. Enfin, j'espère que vous faites comme ça chez vous. Vous priez pour ça. Mais si je m'arrête là, je fais une assurance que Dieu va accomplir sa promesse, d'accord ? Mais où se trouve la démonstration ? Par des actes concrets. Où je vais vérifier que Dieu a, que ce que Dieu a dit est réel. Ben, c'est en établissant des petits groupes. C'est-à-dire que moi, en tant que membre de l'église Betsalel, c'est en allant dans un petit groupe, vous êtes d'accord avec moi ? Quand je dis que la foi est une assurance, une démonstration, elle n'est pas uniquement une assurance, elle n'est pas uniquement une démonstration, elle est l'assurance et la démonstration de ce que Dieu veut. Dites-moi si je me trompe. Je fais un petit travail intellectuel là, mais ça va, je vous... Détendez-vous, c'est dimanche. Il fait beau. Quelques bases pour vivre sa foi. Alors maintenant, je vous ai dit, il faut peser. D'accord ? Maintenant, on va trouver le moyen de grossir dans sa foi. La foi n'est pas une option, mes frères et mes sœurs. Vous savez, des fois, on a des options. J'ai vu là, Nathan, il doit choisir... il avait la possibilité, avec la société, là, de choisir des options de mutuelle. Ce n'est pas une option, la foi. Elle n'est pas une des élections dans le menu des possibilités spirituelles. Et chaque enfant de Dieu doit rechercher à la posséder en abondance, une fois affermie. C'est le seul choix disponible. Celui qui vient à Dieu avec des requêtes, des désirs, des demandes, doit croire qu'il entend et agit activement en réaction aux paroles venues de la terre. Ça veut dire que je veux juste vous communiquer quelque chose. Déjà, si vous ne priez pas, ça va être compliqué. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne prient pas. Priez. Priez et cherchez le Seigneur. J'ai fait une expérience dernièrement dans les relations avec ma femme. Ça va être plus que correct, hein, parce qu'elle a peur, là, je la vois faire des grosses. Pendant 2 mois, on a eu Tim et Ophélie à la maison, on est parti en vacances en famille, etc. Ça bougeait dans tous les sens, etc. Et puis, il y avait Nathan qui était là. La semaine dernière, Nathan part sur Dunkerque. Travailler, là, il va vivre sa petite vie maintenant, là-bas. Et j'ai retrouvé quelque chose de sympa. J'en avais oublié. Que des fois, que de se retrouver rien que Maryse et moi, c'était bon. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La Bible dit que, et Jésus a dit, toi, il t'invite à aller dans le lieu secret, de prendre du temps avec le Père, et le Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Mes frères, mes sœurs, il n'y a pas d'autre possibilité que de passer du temps avec Dieu pour apprendre à le connaître. Et plus tu vas le connaître, plus ta foi va grandir. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et le problème qu'on a souvent, c'est qu'on dit, mais à quoi ça sert que je prie ? Vous ne l'avez jamais proclamé ? Qui l'a déjà dit ? Ils n'osent pas le faire. Mais ah, c'est bien, Victoria. Moi aussi, je l'ai déjà dit, ça. Une fois, j'étais en colère. Contre le Seigneur, je dis, mais ça ne sert à rien de prier maintenant, je ne prie plus. Là, je l'ai dit, j'ai osé, et je me suis repenti, hein, parce que je vous vois arriver. J'ai demandé pardon au Seigneur derrière. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voulez que ça bouge dans votre vie ? Cherchez-le. Vous voulez que ça bouge ? Embrassez le Seigneur. Tenez-lui la main et ne le lâchez plus. La deuxième base pour vivre sa foi, nous avons la possibilité de calquer notre foi sur nos ancêtres spirituels et leur style de vie. Regardez, parce qu'après, il y a toute une série d'héros de la foi. Hein, c'est ce qu'on dit en lisant en général. Il y a tous ces héros de la foi qui nous sont présentés. C'est le seul facteur qui fait briller leur histoire, c'est la foi. Pourquoi ont-ils été reconnus? Pourquoi on se souvient d'eux aujourd'hui? Pas par rapport à ce qu'ils ont fait. On pourrait dire, ouais, il a fait ça, il a fait ça. Oh, oui, il a construit une belle arche. Ah, Moïse avec Betsalel, il a fait un beau tabernacle. Mais c'est pas ça dont on retient d'eux. Le lien commun entre eux et avec nous, c'est leur foi. La foi, c'est notre héritage familial. Comme je dis souvent, du sang, c'est pas de l'eau. Parce que c'était cette semaine, on faisait la répète de louange et je me suis assis derrière le piano et j'ai fait semblant de jouer. Non, j'étais en train de louer le Seigneur pendant un temps de louange comme ça, spontané. Et je crois que c'est Rita et Rachel qui ont dit « Oh purée, Bruno, on aurait cru voir Timothée. » Alors, je sais pas si c'est un compliment pour Timothée ou un compliment pour moi, que j'étais rajeuni d'un coup. Mais je leur ai dit, du sang, c'est pas de l'eau. Et notre héritage, c'est l'héritage de nos pères. Ces hommes, quand je lis leur histoire, lorsque je lis leur vie, regardez Joseph, rejeté, laissé pour mort dans un trou, accusé à tort. Cet homme est resté fidèle malgré tout jusqu'à sa mort. Il est resté fidèle à son Créateur. Ce qui nous tient tous ensemble, ce n'est pas notre philosophie, ce n'est pas nos pensées, c'est pas de croire que il y a le chip de la bête dans le vaccin qui ne l'a pas. On s'en fout de ça. Notre point commun, mes frères et mes sœurs, c'est notre foi en Christ. Et je rebondis sur ce que Jean-Luc a dit dernièrement. Hébreux 11, c'est le cri de Dieu. C'est le cri de Dieu et un appel du Saint-Esprit pour que nous ne brisons pas la grande tradition. J'ai mis tradition entre guillemets parce que j'aime pas trop les traditions. Jésus l'a dit. À un moment donné, il va revenir, il va dire, mais trouverai-je encore la foi sur la terre? Est-ce qu'il y aura encore des hommes et des femmes qui me chercheront? Est-ce qu'il y aura encore des hommes et des femmes qui m'obéiront? Est-ce qu'il y aura encore des hommes et des femmes qui prieront, qui me loueront, qui continueront malgré les circonstances difficiles de leur vie? Est-ce qu'ils vont continuer de me chercher? Ou est-ce que je reviendrai et puis je serai seul sur la terre? Parce qu'il n'y aura plus de frères et de sœurs, parce que la foi qui nous lie n'existera plus. La troisième base pour bien vivre sa foi, c'est que la base est futuriste. Pourquoi je vais vous dire ça? Regardez, il est dit, c'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Pourquoi Noé a-t-il construit l'arche? Par la foi. Parce qu'il avait quelque chose dans l'avenir. La foi a toujours poussé le croyant vers le futur. Et je crois que Dieu a un futur pour chacun d'entre vous. Et un futur pour moi, et un futur pour chacun d'entre nous, et un futur pour son Église, et un futur pour cette ville. Parce que Dieu nous pousse vers le futur. Elle a toujours soumis la foi. Elle a travaillé. Elle a obtenu. Elle a stoppé le mal. Elle a éteint. Elle a fortifié. Elle a vaincu lors des batailles, elle a enduré, elle a décrété, elle a proclamé, elle a créé un style de vie chez ces hommes et ces femmes dont je connais l'histoire dans la Bible. Un style de vie de victoire face à l'ennemi qui veut que les croyants arrêtent de faire, arrêtent de proclamer, arrêtent d'agir. La foi me réveille. La foi me pousse au réveil. Mais si tu passes ton temps à regarder tes événements du passé, ta foi va mourir. Parce que la foi te pousse vers l'avant, alors que tes sentiments, tes émotions te ramènent vers ce qui s'est passé dans le passé. Et souvent, nous nous laissons piéger par les mensonges. Et nous disons, oui, mais il s'est passé ça, oui, il s'est passé ça. Et Dieu ne le nie pas, ça. Il sait tout ce que tu vis. Il sait ce que j'ai vécu. Il connaît le rejet, il connaît les insultes, il connaît tout ce que j'ai pu vivre. Mais à chaque fois, Dieu me dit, maintenant, va vers l'avant, fils. Va vers mes projets, fille. Parce que si tu restes attaché à l'événement négatif, tu vas être emprisonné. Emprisonné. Tu vas pouvoir continuer à aller au culte. Tu vas pouvoir continuer peut-être d'ouvrir la bouche pour prier. Mais que feras-tu par la foi avec Dieu? Tu seras limité. La foi te pousse maintenant. Et ce matin, le Seigneur veut briser ses liens. Il veut amener ses enfants à une vraie liberté vers l'avenir, vers ses plans pour son royaume. La foi, c'est la concrétisation de ce que Dieu a dit, pas de ce qui, je pense, être bon. Je crois qu'on a tous fait, pour ceux qui sont parents, on a tous fait l'expérience. Des fois, on a refusé des choses à nos enfants. On leur a refusé parce que là, c'est pas bon pour toi, tout simplement. Et souvent, moi, j'ai réagi comme ça maintenant, ou je sais pas comment vous faites, hein. Peut-être que vous êtes meilleur que moi, sans doute. Mais parfois, j'ai réagi vis-à-vis de Dieu parce que je pensais que des choses étaient bonnes pour moi et Dieu a fermé les portes. La foi est la concrétisation de ce que Dieu a dit, pas de ce que tu penses être bon pour toi. Et parfois, il se passe des choses dans nos vies difficiles. C'est parce que Dieu a trouvé bon de le faire. Alors, tu n'auras peut-être pas la réponse tout de suite, mais quand on sera là-haut, tu auras la réponse de tout. Et tu verras, on rougira tous de nos temps de colère et nos temps d'incompréhension. Ah, on dira, mais oui Seigneur, je comprends maintenant pourquoi tu as permis ça. Beaucoup abandonnent la foi ou sont ébranlés dans leur foi dès qu'un événement vient stopper ou entraver ce qu'ils souhaitaient. Alors, je dis beaucoup, je ne dis pas tous. En tout cas, moi, parmi les beaucoup, il y a Bruno. Ensuite, d'autres se laissent emprisonner. Et avant ta parole prophétique, d'autres, je l'avais écrit, hein, je ne l'ai pas fait à la dernière minute. Là. D'autres se laissent, j'ai une mouche qui m'ennuie, d'autres se laissent emprisonner par leurs sentiments, limitant ou détruisant la foi donnée par grâce. Vous savez, la foi, je crois que j'en parlais hier avec quelqu'un de l'Église, la foi, ce n'est pas une question de sentiment ou de ressenti. Michel Renevier, pour que plusieurs ont connu, disait le sentiment. Il disait ça, Michel Renevier. La foi, ce n'est pas ce que tu ressens. La foi, c'est ce que Dieu dit. Et là, c'est tout à fait différent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez en face de vous quelqu'un d'émotionnel. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Je suis quelqu'un qui est facilement émotif. Mais j'ai appris avec le temps et en fonction des circonstances à mettre de côté mes sentiments. Et si tu veux grandir dans la foi, il va falloir travailler ça. Alors je ne dis pas qu'il faut avoir de sentiments, hein. On va me dire, ça y est, maintenant ici, c'est marche ou crève. Non, ce n'est pas ça que je dis. Je dis que le sentiment est bon dès lors qu'il ne vient pas détruire ta foi. Je répète, le sentiment est bon dès lors qu'il ne vient pas détruire ta foi. Et puis le dernier point, après je vais arrêter, parce que je suis long, je trouve. La foi ne se limite pas à ma vie terrestre, comme on pourrait souvent le croire, mais elle me pousse vers l'éternité. Regardez, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Regardez ce qu'il dit, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire qu'ici tu vis des choses, ici tu subis des choses, ici tu vis des épreuves, tu vis des difficultés, on vit quand même aussi des belles choses. Hein? Y a-t-il des personnes qui ont vécu des belles choses ces derniers jours? Non? Oh là là, il n'y en a pas. Ah bon, ça va. Ouais, y a un bébé qui est arrivé, c'est ça? Ou ta femme est devenue sage, peut-être. On va couper ça pour qu'elle n'écoute pas. Et en fait, la foi ne se limite pas à ce qu'il y a sur la terre. Et souvent, nous comparons et nous voulons que notre foi vienne établir les choses d'une manière complète ici, sur la terre. Or, je vous rappelle, mes frères et mes sœurs, qu'on va tous partir, qu'on va tous mourir, qu'on sera tous un jour face au Seigneur, et que ce que nous faisons ici, sur la terre, pendant toutes les années, vont déterminer ce que nous serons dans l'éternité. Autrement dit, pensez toujours que parfois, il vaut mieux avoir la tête dans le ciel et rechercher les choses d'en haut que les choses de la terre. J'ai fini.